Nous, ce matin, c'est l'Assemblée nationale, les travaux qui débutent. On s'en va sur 5 semaines. Est-ce que le discours inaugural de Christine Fréchette hier, la première ministre, était aligné sur le besoin des Québécois actuels?
Oui, dans une certaine mesure, mais c'est parce que c'est surtout aligné sur tout ce qui a été raté par la CAQ durant les 4 ans, en fait les 8 ans de gouvernance caquiste. Donc, c'est un peu bizarre comme discours. Elle parlait du gouvernement précédent. Et au début, je regardais les libéraux, puis on se posait la question, est-ce qu'elle parle de Philippe Couillard et du gouvernement libéral? Non, non, elle parlait de son propre gouvernement comme si les 7 dernières années n'ont pas eu lieu.
Ben, c'était une façon pour elle de se, c'était une façon pour elle de se distancer.
Mais je vous rappelle que la ministre qui était là pendant Northvolt, puis qui nous disait que nos investissements de fonds publics, tout allait bien, c'était elle. Et sur la perte de contrôle de l'immigration, quand le Parti québécois interpellait la ministre de l'Immigration en disant « ça prend des seuils pour les temporaires parce qu'on est complètement en train de on n'a aucune planification puis ça va créer une crise du logement », la ministre qui nous répondait « non, on peut pas faire de planification, tout est beau », c'est Christine Fréchette. Donc, quand elle nous parle de crise du logement hier, quand elle nous parle, par exemple, que le Québec prenne sa place dans le monde puis parle pour lui-même, il y a eu toutes sortes de sujets, la protection du français, où on peut pas s'empêcher de le voir dans le prisme de 7-8 ans où la CAQ a lamentablement échoué précisément sur ces sujets-là. Donc, ça donne un discours un peu bizarre où il faudrait, en 5 semaines de travaux parlementaires, essayer de réaliser les défis qui n'ont pas été réalisés pendant 8 ans.
Ouais. Allons-y point par point pour étendre la loi 101, entre autres le ministre Jean-François Roberge qui va déposer un projet de loi pour renouveler un an avant son échéance la clause dérogatoire qui protège la charte de la langue française. Qu'en pensez-vous?
La clause dérogatoire, le rappelons, c'est quoi? C'est simplement qu'on protège une loi québécoise contre les tribunaux, qui sont des nominations fédérales, contre l'invalidation de nos lois. Donc, c'est un mécanisme qu'on a et qu'on a utilisé des dizaines de fois, puis le gouvernement Couillard, les gouvernements libéraux comme péquistes, comme caquistes l'ont toujours fait. D'habitude, on le fait sans trop de fanfare, là. Ça va un peu de soi sur des choses comme la protection du français ou la laïcité, mais je pense qu'ici, donc je suis d'accord, mais ce qui est particulier, c'est d'en faire sa loi 1, parce qu'au fond, ça change pas le cadre. C'est juste le statu quo qu'on reconfirme. Et ce statu quo-là, rappelons-le, surtout dans la grande région de Montréal, nous mène à un des déclins du français les plus spectaculaires de notre histoire. Et la raison pour laquelle, au lieu de prendre un sujet plus substantiel, Christine Fréchette a choisi le statu quo comme loi numéro 1, comme loi la plus importante de son programme, c'est que son rapprochement en termes idéologiques avec le Parti libéral du Québec l'amène à vouloir s'en détacher. Et là-dessus, elle essaie de prendre au piège le Parti libéral du Québec, qui, en cause de sa base anglophone qui est fortement opposée à la protection du français, va probablement répondre qu'il ne s'engage pas à reconduire la protection du français avec la clause dérogatoire. Donc là, ici, on est vraiment dans de la tactique politique préélectorale, rien à voir avec les problèmes concrets des Québécois, comme vous le disiez, parce que ça va de soi. Faire une clause dérogatoire, là, ça a été fait des dizaines de fois. C'est un peu le service minimum. Là,
ben d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez d'Arun Boisy de Québec solidaire qui va déposer un projet de loi pour encadrer l'utilisation de la disposition de dérogation? C'est comme un parti souverainiste qui veut moins de pouvoir pour le Québec?
C'est exactement ça. Très, très bonne analyse. Si vous me permettez, j'emprunterai votre ligne pour le reste de la journée.
C'est dit, on charge 10%.
Exactement ça. C'est exactement ça. Nous sommes indépendantistes et c'est pour ça qu'on veut que le fédéral invalide nos lois démocratiquement élues. C'est invraisemblable. Mais si vous voyez le Parti libéral du Québec dire, ben, parce que c'est la position dans les dernières semaines, Charles Millard dit, on reconduira pas la clause dérogatoire sur la laïcité. Donc, faut comprendre que, en toute probabilité, lorsque la Cour suprême va invalider notre laïcité, les libéraux permettraient la fin de la laïcité au Québec. Lorsque les libéraux veulent pas s'engager à la protection du français par la clause dérogatoire lorsque QS fait la même chose. La prochaine élection, de ce point de vue-là, n'est pas inintéressante. Elle va toucher à des choses très fondamentales parce qu'il y a des partis qui littéralement disent « si je suis au pouvoir pendant 4 ans, je vais laisser aller l'invalidation de la laïcité de l'État et l'invalidation de nos protections du français au Québec au moment où cette laïcité puis ce français-là sont en recul. » C'est-à-dire que sociologiquement, sur le terrain, on voit beaucoup plus de religieux puis de sujets portant sur le zèle religieux qu'il y a 15 ans, 20 ans. Puis on voit un recul du français substantiel. Puis pourquoi? Mais parce que nos seuils d'immigration ont augmenté de manière telle, on a tellement une immigration désormais incontrôlée, que l'intégration ne se fait plus comme elle se faisait dans le modèle québécois qui fonctionnait quand même bien là, il y a 15-20 ans. Donc, c'est pas des petits sujets. Rajouter à ça le gaspillage de fonds publics, le fait que les gens paient beaucoup d'impôts, n'ont pas les services qu'ils espéraient en échange. La prochaine élection va toucher à des points très sensibles et très fondamentaux pour l'avenir du Québec.
Je vous demanderai pas de commenter vos sondages à vous, là, mais il y a des sondages assez particuliers à Québec là, qui se sont faits dans les dernières semaines, les derniers mois. Entre autres, un sondage Palace hier sur le fameux coût du tramway. Si, advenant le cas où, exemple, le tramway va coûter 7,5 milliards, est-ce que vous êtes pour ou contre le projet? Puis là, il y a une vaste majorité des gens qui sont contre le projet à plus de 60 %. Pour ce qui est du troisième lien, bien là, c'est l'inverse. Il y a presque 60 % des gens qui sont d'accord avec le troisième lien. Pour le Parti québécois, vous avez plusieurs fois mentionné que vous n'êtes pas nécessairement favorable au troisième lien. Christine Fréchette, hier, qui promet de lancer d'ici l'été un appel d'intérêt au privé pour réaliser un nouveau lien autoroutier qui serait payant. Il n'y a pas un délit de démocratie quand on va à l'encontre de la demande des gens qui vous ont mis au pouvoir?
OK. Question, par contre, sur le sondage du troisième lien, est-ce que c'est la même formule de dire si le troisième lien nous coûte 13 milliards, êtes-vous pour? Ou ils ont juste posé la question, le troisième lien, oui ou non?
Il n'y a pas de coût associé, là,
dans ma connaissance. Donc, vous comprenez la différence de méthodologie. Dans le cadre du tramway, on dit, si le tramway coûte une fortune, êtes-vous contre? Évidemment que les gens vont répondre, oui, on est contre. Ouais. Parce qu'on a perdu le contrôle. Puis dans le cas du troisième lien, on ne dit pas que les coûts n'ont pas diminué là, durant toutes ces années.
Mais en bout de ligne, la population de Québec, au départ, n'était pas favorable au tramway, puis on y va quand même de l'avant. La population de Québec était pro-troisième lien, puis là, on s'est dit dans les dernières années, ouais, le troisième lien, on n'est pas sûr. Le PQ, sa position n'a jamais changé. Vous n'êtes pas nécessairement pour le troisième lien. On va un peu à l'encontre de la demande des gens de Québec, là.
Ben, c'est-à-dire qu'on va à l'encontre du principe de gouvernance par sondage. Et c'est ça que la CAQ a fait pendant 8 ans. Là. Ils ont dit aux gens ce que les gens voulaient entendre. Ils ont faussement fait croire qu'il y aurait un troisième lien. Puis on a tous ri hier là, quand Christine Fréchette a ramené le troisième lien dans son discours. Ça n'a que très peu de crédibilité à ce stade-ci. Nous, on va présenter... Évidemment, il y a un problème avec le tramway, c'est que la CAQ est intervenue tellement de fois, puis le fédéral a, je m'excuse, je vais dire choqué, là, mais c'est pas un mot français, là, a hésité, puis a laissé tomber le projet tellement de fois que là, on est devant une explosion des coûts, puis une érosion de l'appui populaire. Ouais. Mais demeure que si vous me demandez c'est quoi la bonne politique publique pour Québec, Québec a besoin, en ce moment, là, je vous le dis, j'étais supposé être à l'Assemblée nationale sur ma ligne fixe. Il y a tellement de trafic que je suis dans le véhicule pour donner mon entrevue. Québec va devenir impossible sur le plan des transports si on ne retire pas des gens qui gagnent en vitesse, en temps, en utilisant les transports en commun moins chers et plus vite.
Mais on est tous d'accord pour ça. Ça nous prend un transport en commun efficace. Ben oui.
C'est ça, mais si on est d'accord avec ça, un gouvernement du Parti québécois va se poser la question, si j'ai tant de milliards, puis moi je veux investir dans la ville de Québec. Je trouve que c'est une ville qui, en proportion de l'augmentation de sa population puis en proportion de sa taille, n'a pas les outils. Là. Mais c'est sûr que je ne gouvernerai pas par sondage. Je vais me poser la question, si j'ai tant de milliards à investir dans la ville de Québec, qu'est-ce qui va être le plus utile puis qu'est-ce qui va soulager davantage le nombre d'heures perdues dans le trafic? Ouais. À chaque fois qu'on a essayé de faire un tracé de troisième ligne autoroutier, ça finit de la même manière. Ça débouche à un endroit où ça peut pas déboucher, puis que ça va augmenter vraiment de manière grave le trafic. Donc, il n'y a jamais eu de trafic qui a donné lieu à une conclusion positive sur l'impact sur le trafic. Puis moi, je doute qu'on s'en tire en bas de 12, 13, 14 milliards là, pour construire un tunnel en dessous du fleuve. Donc, il y a aussi là, il y a un choix à faire en fonction de l'intérêt public et non pas de la gouvernance par sondage qui, malheureusement, a été la marque de commerce de la CAQ pendant 8 ans.
Je pense que ce qui est étonnant un peu, c'est le coût du tramway. On ne sait pas trop comment ça va finir non plus. Et là, la Ville de Québec s'est entendue sur un montant, ce que je trouve correct, là, un montant que les gens de Québec vont devoir payer. La province s'est engagée sur un pourcentage que je trouve extrêmement dangereux. Puis là, on tente de convaincre aussi le gouvernement fédéral qui, lui, s'était entendu sur un montant à donner à la Ville de Québec. On veut un pourcentage au fédéral pour le coût du tramway. C'est pas comme ça qu'une entreprise privée gère ses affaires. Ça nous prend le coût final, puis voici l'argent qu'on va vous donner tout simplement. On peut pas signer un chèque en blanc, que ce soit pour la province de Québec ou encore le fédéral, M. Plamondon.
Oui, mais c'est symptomatique de tous les hôpitaux, les écoles, puis les projets en ce moment qui sont ingérables par l'État. Si la hausse des coûts des projets triple, quadruple le taux d'inflation. En d'autres mots, là, si à chaque mois, le prix de ton hôpital ou de ton projet de tramway augmente par des millions, en effet, l'État est plus capable de budgéter et de s'engager, mais ça soulève la question qu'est-ce qui explique que nos coûts de construction au Québec et nos coûts de projet au Québec soit parfois le double de ce qui se fait en Ontario et au Vermont. Qu'est-ce que ça dit sur l'industrie, sur l'absence de concurrence, sur les hésitations des gouvernements qui fait que le privé ne veut plus s'engager dans des projets qui n'auront pas lieu? Il y a vraiment des enjeux de concurrence et de stabilité derrière ça, parce qu'ensuite, les gouvernements, ne sachant pas, ils s'embarquent dans quoi parce que le prix est complètement hors de contrôle. Les pourcentages, c'est pas l'assurance de qui va régler la facture finale. Donc, qu'est-ce que le Parti québécois peut faire là-dedans? Simplement prendre l'état des lieux au terme des prochaines élections, parce que là, si certains travaux commencent dans certains projets d'infrastructure, se pose la question, est-ce qu'on est engagé ou on n'est pas engagé? Puis vérifier ces coûts-là. L'explosion des coûts vient de quoi? Et si on veut des hôpitaux puis des écoles en bon état dans les prochaines années, il va falloir trouver un moyen de mettre un frein à l'escalade des prix de nos projets au Québec par rapport à n'importe où en Amérique du Nord. Ça n'a pas de bon sens.
Parlant de moyens, M. Saint-Pierre Plamondon, je termine l'entrevue là-dessus. Quelles sont les actions différentes que vous allez faire pour réussir à diminuer l'itinérance de 50 % d'ici 2030?
Ben, on s'inspire de la Finlande, de Houston. Évidemment, la cause prépondérante de l'explosion de l'itinérance, c'est une vague migratoire incontrôlée dont je vous parlais tantôt, qui a surpassé de beaucoup notre capacité à bâtir du logement. Donc, imaginez un jeu de chaises musicales avec des enfants. S'il y a 10 chaises et 11 personnes, au terme de la chanson, il va rester une personne debout. Si vous rajoutez 10 personnes puis 2 chaises, bien évidemment que là, il va y avoir une dizaine d'enfants qui, au terme de la chanson, ont plus de chaises. Il y a un problème d'offre et de demande. Donc, on va stabiliser l'immigration, notamment au niveau de l'immigration temporaire. On va augmenter l'offre de logement social parce que la CAQ ne s'est pas intéressée au logement social, ça a des conséquences. Et on va favoriser le logement d'abord. Là, quand on regarde ce que ces endroits-là qui ont vraiment diminué l'itinérance ont fait, ils ont dit, nous, notre première priorité, c'est qu'il y ait du logement avant des services sociaux. Il y aura des services quand on aura du logement. Donc, le logement va servir d'endroit pour des gens qui ont des problèmes de toxicomanie, de santé mentale, des aînés, c'est tellement triste. Là, maintenant, le visage de l'itinérance a changé. Et c'est des aînés. Des fois, c'est des jeunes qui ont des jobs, mais qui n'y arrivent pas pareil.
Mais c'est beaucoup. J'habite dans le secteur Saint-Roch, là, puis je vais vous avouer que des aînés, j'en vois quelques-uns, effectivement. Puis là, vous allez me dire qu'il y a une itinérance qu'on ne voit pas. Vous avez raison. Mais c'est beaucoup la maladie mentale que je rencontre dans ce secteur-là. La toxicomanie aussi,
exact.
L'alcoolisme. Il faut travailler sur plusieurs fronts dans ce dossier-là de l'itinérance, là.
Donc, s'il y a un endroit, puis la Finlande et Houston, là, c'est s'ils peuvent au moins être à un seul endroit durant la nuit, ça permet également de travailler avec eux sur ces problèmes-là. Et donc, c'est un renversement de la priorité. Ça s'appelle la doctrine logement d'abord. Mais dans ce qui, moi, m'interpelle des dernières années, c'est qu'on est une société riche, puis c'est hautement symbolique de notre déclin moral et de notre déclin institutionnel, c'est-à-dire qu'on paie beaucoup d'impôts, on a quand même un PIB per capita très élevé. Comment est-ce qu'on se retrouve avec 12 000 personnes qui dorment dehors avec les hivers qu'on a? Donc, on va s'inspirer des meilleures pratiques, puis on va se donner l'objectif de réduire de moitié, de se rendre à 6 000 de personnes de moins sur une période de 4 ans. Puis là-dessus, je pense que les maires, les groupes communautaires, la première ligne, CLSC, tout le monde est prêt à ramer, mais si on se fixe le même objectif, qu'on se coordonne, ça, déjà, ce serait une amélioration par rapport à l'absence de volonté politique. Parce que ça aussi, ça part de la CAQ, là. On a laissé filer cette situation-là, puis on est devant des chiffres astronomiques, malheureusement, puis moi, je l'accepte pas. Donc, on va faire quelque chose par rapport à ça.
Bon retour à l'Assemblée nationale, M. Saint-Pierre Plamondon.
L'année prochaine, ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Merci. Bye-bye. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui était dans le trafic à Québec.
Ben oui!
Eh oui,
il y a du trafic à Québec.
Mais j'aime beaucoup l'angle de surveiller pourquoi ça coûte plus cher au
Bien
Québec
sûr.
Qu'ailleurs. Ça, c'est de la droite économique, soit dit en passant.
Faut le faire.
Faut le faire. Pourquoi on va avoir le tramway le plus cher du monde entier? À un moment donné, il va falloir que quelqu'un nous explique.
En effet.
Les contrats qu'on a octroyés à des entreprises qui se sont faites prendre à certains endroits dans le monde avec en donnant des pots de vin, c'est assez particulier aussi. C'est tout le genre de choses qui pourraient arriver au Québec. Jusqu'à maintenant, on n'a rien qui peut nous dire ça, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va avoir le tramway le plus cher du monde? Moi, ça... Ça me sort pas de la tête, ce questionnement.
Ben, si on demande à l'autorité des marchés publics, c'est mon chef d'Éragie qui fait la demande, d'enquêter sur le DSN.
Dossier santé numérique.
Oui, il faut enquêter sur le tramway.
Non, je suis entièrement d'accord. Max!
C'est le bordel sur les routes Pont de Québec. Sortie du pont, la voie de gauche qui est bloquée par une panne. 40 est, hauteur après l'avenue Legendre. La voie de gauche qui est bloquée, il y a un accident. Dans les deux cas, c'est ben jamé. Sinon, Capitale-Ouest, on dirait qu'on est encore dans l'heure de pointe qui s'étire à 8h48 entre Seigneurial et Laurentienne. Et également, là, Henri IV Sud. Les travaux qui compliquent beaucoup les choses depuis quelques semaines. En ce moment, à partir de avant Wilfrid Hamel jusqu'à l'approche du boulevard du Versant Nord, là, au gros ralenti.
Merci beaucoup. Après la pause, c'est le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec, Stéphane Lachance, qui sera des nôtres. Si vous avez des choses à nous mentionner d'ici là, c'est important de le faire par texto. 418-971-1021. Si vous avez des questions aussi pour l'opposition officielle de la Ville de Québec, ce serait bien apprécié. On va poser vos questions à Steph dans les prochaines secondes. Maintenant, le Canadien qui joue ce soir, Max.
Oui, 19h, match numéro 1 face au Sabre. Ça se passe du côté de Buffalo. Il n'y a rien qui indique qu'il y aura des changements à l'alignement du Canadien. Puis si c'est le cas, on risque de le savoir aux alentours de 10h, 11h, dans le cas où il y a un échauffement sur la patinoire. On va voir qui reste plus longtemps sur la glace, ou du moins qui s'entraîne si les autres ne s'entraînent pas. Mais sinon, ben, à suivre ce soir pour ce qui est des trios. Aussi, la série entre les Ducks et les Golden Knights qui va se poursuivre. Vegas mène 1-0. Hier, victoire de l'Avalanche par la marque de 5-2 sur le Wild pour prendre les devants 2-0 dans la série. Et c'était soir de loterie dans la LNH hier soir en vue du repêchage 2026. Les Maple Leafs de Toronto qui ont joué de chance pour mettre la main sur le tout premier rang. Les Sharks de San Jose qui ont aussi eu la main heureuse avec un bond de 7 rangs. Ça les fera choisir deuxième. C'est donc dire que les pauvres Canucks de Vancouver glissent au troisième échelon.
Merci beaucoup, Max. On te retrouve à 10h. Tu vas nous parler de quoi?
On reçoit Nathan Meilleur, notamment. C'est mercredi que c'est notre rencontre avec Nathan Meilleur. Un petit suivi. Là,
garde le meilleur pour mercredi.
Exactement, voilà. Le meilleur pour mercredi. L'open mic avec Audrey et Pascal Cévé va venir faire son tour, puis on va suivre cette première journée de vrai retour au travail à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup, à tantôt.
Pour nous informer de ce qui se passe,